Anatole France, Madame de Luzy, manuscrit du 15 septembre 1792. Quand j'entrai, Pauline de Luzy me tendit la main, puis nous gardâmes un moment le silence. Son écharpe et son chapeau de paille reposaient négligemment sur un fauteuil. La prière d'Orphée était ouverte sur l'épinette. S'approchant de la fenêtre, elle regarda le soleil descendre à l'horizon sanglant. « Madame, lui dis-je enfin, vous souvient-il des paroles que vous avez prononcées il y a 2 ans, jour pour jour, au pied de cette colline, au bord du fleuve vers lequel vous tournez en ce moment les yeux ? Vous souvient-il que, promenant autour de vous une main prophétique, vous m'avez fait savoir par avance les jours d'épreuve, les jours de crime et d'épouvante. Vous avez arrêté sur mes lèvres l'aveu de mon amour, et vous m'avez dit « Vivez, combattez pour la justice et pour la liberté. Madame, depuis que votre main, que je n'ai pas assez couverte de larmes et de baisers, m'a montré la voie, j'ai marché hardiment. Je vous ai obéi. J'ai écrit, j'ai parlé. Pendant 2 ans, j'ai combattu sans trêve les brouillons faméliques qui sèment le trouble et la haine, les tribuns qui séduisent le peuple par les démonstrations convulsives d'un faux amour et les lâches qui sacrifient aux dominations prochaines. » Elle m'arrêta d'un geste et me fit signe d'écouter. Nous entendîmes alors venir à travers l'air embaumé du jardin, où chantaient les oiseaux, des cris lointains de mort. « À la lanterne, l'aristocrate !» Pâle, immobile, elle tenait un doigt sur la bouche. « C'est, repris-je, oh, quelques malheureux qui le poursuivent. Il faut des visites domiciliaires et des arrestations, nuit et jour, dans Paris. » Peut-être vont-ils entrer ici. Je dois me retirer pour ne pas vous compromettre. Bien que peu connu dans ce quartier, je suis par le temps qui court un haut hôte dangereux. Restez, me dit-elle. Pour la seconde fois, des cris déchirèrent l'air paisible du soir. Ils étaient mêlés de bruits de pas et de coups de feu. Ils se rapprochaient. On entendait « Fermez les issues, qu'il s'échappe Paul, scélérat !» Madame de Luzy semblait plus calme à mesure que le danger se rapprochait. « Montons au second étage, dit-elle. Nous pourrons voir à travers les jalousies ce qui se passe dehors. » Mais à peine avions-nous ouvert la porte que nous vîmes sur le palier un homme livide, défait, dont les dents claquaient, dont les genoux s'entrechoquaient. Et ce spectre murmurait d'une voix étouffée « Oh, sauvez-moi, cachez-moi, ils sont là, ils ont forcé ma porte, envahi mon jardin, ils viennent !» Chapitre 2. Madame de Luzy, reconnaissant Planchonnet, le vieux philosophe qui habitait la maison voisine, lui demanda tout bas « Ma cuisinière vous a-t-elle vue? Elle est jacobine. » « Non, personne ne m'a vu. Dieu soit loué, mon voisin. » Elle l'entraîna dans sa chambre à coucher où je l'ai suivi. Il fallait aviser, il fallait trouver quelque cachette où elle pût garder Planchonnet plusieurs jours, plusieurs heures au moins, hein, le temps de tromper et de lasser ceux qui la cherchaient. Il fut convenu que j'observerais les alentours et que, sur le signal que je donnerais, le pauvre ami sortirait par la petite porte du jardin. En attendant, il ne pouvait se tenir debout. C'était un homme étonné. Il essaya de faire entendre qu'il était recherché, lui, l'ennemi des prêtres et des lois, pour avoir conspiré avec M. de Recozatte contre la Constitution et être joint le 10 août aux défenseurs des Tuileries. C'était une indigne calomnie. La vérité était que Lubin le poursuivait de sa haine. Lubin, naguère son boucher, qui avait voulu 100 fois bâtonner pour lui apprendre à mieux peser sa viande, et que maintenant, qui maintenant présidait la section où il avait eu son étage. En murmurant ce nom d'une voix étranglée, il crut voir Lubin lui-même et se cacha la face dans les mains. On heurtait à la porte de la chambre. Madame de Lucy poussa le vieillard derrière un paravent et ouvrit. C'était la cuisinière qui venait l'avertir que la municipalité était à la grille avec la garde nationale et qu'il venait faire une perquisition. « Ils disent, ajouta la fille, que Planchelet est dans la maison. Moi, je sais bien que non, vous ne cacheriez pas un scélérat de cette espèce, mais il ne veut pas me croire. » « Eh bien qu'il monte, répondit madame de Lucy avec tranquillité. Faites-leur visiter toute la maison, de la cave au grenier. » En entendant ce dialogue, le pauvre Planchonnet s'était évanoui derrière son paravent, où je parvins à grand-peine à le ranimer en lui jetant de l'eau sur les tempes. Quand ce fut fait, « Mon ami, dit tout bas la jeune femme au vieillard, fiez-vous à moi. Rappelez-vous que les femmes sont rusées. » Aussitôt, elle tira le lit un peu en avant de l'alcôve, défit la couverture et, avec mon aide, disposa les 3 matelas de manière à ménager du côté de la ruelle un espace vide. Comme elle prenait ses dispositions, un grand bruit de souliers, de sabots, de crosses et de voirocs éclata dans l'escalier. Ce fut pour moi, je l'avoue, une minute terrible, mais le bruit monta peu à peu au-dessus de nos têtes. Nous comprîmes que la garde, conduite par la cuisinière jacobine, fouillait d'abord les greniers. Le plafond craquait. On entendait des menaces, de gros rires, des coups de pied et des coups de baïonnette dans les cloisons. Nous respirons, mais il n'y avait pas une seconde à perdre. J'aidais Planchonnet à se couler dans l'espace ménagé sous les matelas. En nous regardant faire, madame de Lucy secouait la tête. Le lit, ainsi bouleversé, avait un air suspect. Elle essaya de le refaire exactement, mais n'y put parvenir. « Oh, il faut que je m'y mette, » dit-elle. Elle regarda la pendule. Il était 7 heures du soir. Elle songea qu'on ne trouverait pas naturel qu'elle fût couchée si tôt. Quant à se dire malade, il ne fallait pas songer. La cuisinière jacobine découvrirait la ruse. Elle demeura ainsi, songeuse, quelques secondes. Puis, tranquillement, simplement, avec une auguste candeur, elle se déshabilla devant moi, se mit au lit et m'ordonna de retirer mes souliers, mon habit et ma cravate. « Il faut que vous soyez mon amant et qu'ils nous surprennent. Quand ils viendront, vous n'aurez pas eu le pain de réparer le désordre de votre toilette. Vous leur ouvrirez en veste. » La veste se portait sous l'habit. C'était une sorte de gilet plus long que les nôtres et auquel étaient attachées de longues manches. Les cheveux défaits. Toutes nos dispositions étaient prises quand la troupe civile descendit du grenier en sacrant et pestant. Le malheureux Planchonnet fut saisi d'un tel tremblement qu'il secouait tout le lit. De plus, sa respiration était si forte qu'on en devait entendre le sifflement jusque dans le corridor. « C'est dommage, » murmura madame de Lucy. « Oh, j'étais si contente de mon petit artifice. Enfin, ne désespérons point, et que Dieu nous aide. » Un poing rude secoua la porte. « Qui frappe ?» demanda Pauline. « Les représentants de la nation. » « Oh, ne pouvez-vous attendre un moment ? Ouvrons-nous, brisons la porte. » « Mon ami, allez ouvrir. » Tout à coup, par une espèce de miracle, Planchonnet cessa de trembler et de râler. C'est Lubin qui entra le premier, ceint de son écharpe et suivi d'une douzaine de piques. Tournant alternativement les regards sur madame de Lucy et sur moi, Oh, peste! S'écria-t-il, vous délichant des amoureux! Oh, excusez-nous, la belle! » Puis, se tournant vers les gardes, « Seuls les sans-culottes ont des mœurs !» Mais en dépit de cette maxime, une telle rencontre l'avait mis en gaieté. Il s'assit sur le lit et, prenant le menton de la belle aristocrate, « Mais il est vrai, dit-il, que cette bouche-là n'est pas faite pour marmotter jour et nuit des patères. Ce serait dommage, mais la République avant tout. Nous cherchons le traître Planchonnet. Il est ici, j'en suis sûr, il me le faut. Je le ferai guillotiner, ce sera ma fortune. »
Cherchez-le donc.
Ils regardèrent sous les meubles, dans les armoires, passèrent des pics sous le lit et sondèrent le matelas avec des baïonnettes. Lubin, se grattant l'oreille, me regardait du coin de l'œil. Madame de Luzy, craignant pour moi un interrogatoire embarrassant,
« Mon ami, me dit-elle, tu connais aussi bien que moi la maison. Prends les clés et conduis partout, monsieur Lubin. Je sais que ce sera un plaisir pour toi que de guider des patriotes. »
Je les conduisis dans la cave où ils curbutèrent les margotins et burent un assez grand nombre de bouteilles. Après quoi, Lubin défonça à coups de crosse les tonneaux pleins et, sortant de la cave inondée de vin, donna le signal du départ. Je les reconduisis jusqu'à la grille que je refermai sur leurs talons et je courus annoncer à madame de Luzy que nous étions sauvés. À cette nouvelle, penchant la tête dans la ruelle, elle appela « Monsieur Planchonnet, monsieur Planchonnet !» Un faible sourire lui répondit.
« Oh, Dieu soit loué !» s'écria-t-elle. « Monsieur Planchonnet, oh, vous m'avez fait une peur affreuse. Je vous croyais mort.